Et Dieu, qu'a-t-il à faire avec Noël ? Demanda un jour un jeune enfant en voyant l'arbre de Noël et tous les cadeaux à son pied. La Bible déclare, voici, la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Aujourd'hui, Dieu est avec nous. Ce nom d'Emmanuel veut donc dire que la personne de Jésus est parmi nous. C'est l'apôtre Jean qui écrivit « Et la parole fut faite chair et elle demeura parmi nous ». Dieu s'est rendu visible en venant sur notre terre. Il s'est révélé et nous savons comment il est, ce qu'il pense de nous, combien il nous aime et quel immense sacrifice il a accompli pour prouver son amour lorsque son fils est mort sur la croix. La parole s'est faite chair. Le mot grec pour chair est sarx. Il s'agit d'un mot d'une grande richesse, parce qu'il veut dire plus que simplement assumer un corps humain, et plus encore que l'Esprit de Dieu entrant dans un corps humain. La parole s'est faite chair, cela veut dire que Dieu a pris la nature humaine en lui-même pour aller en tant qu'homme parmi les hommes. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est aussi le Fils de l'homme. Durant ses années de vie divine passées sur terre, l'homme-Dieu s'est limité aux désirs, aux tentations, aux tristesses et aux joies communes à tous les hommes à cause de leur nature humaine. L'incarnation, par conséquent, n'était pas un hasard ni un jeu au cours duquel Dieu aurait pris forme humaine temporairement. Non, l'incarnation était prévue avant la fondation du monde. L'apôtre Paul dit « Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi. » La parole faite chair habitera parmi nous. Non seulement Dieu a pris forme humaine, mais il est venu demeurer parmi nous. En grec, le mot « habiter » a également un sens très riche. Il est de même racine que les mots « tente » et « tabernacle » qui, dans l'Ancien Testament, désignaient la résidence de Dieu. C'est dans la tente que Dieu et le peuple d'Israël se rencontraient. C'est dans la tente ou tabernacle que Dieu résidait, car Dieu en avait fait sa demeure. Par conséquent, le mot « habiter » signifie que Dieu a dressé sa tente parmi nous, qu'il a élu domicile au milieu de nous, qu'il est venu vivre avec nous, qu'il n'est plus un étranger, qu'il n'est plus connu seulement de loin. Tel est le véritable sens de Noël. Enfin, remarquez bien l'expression « parmi nous ». Dieu ne s'est pas contenté de demeurer près de nous ou au-dessus de nous, mais au milieu de nous. Je me suis longtemps demandé pourquoi Dieu n'a pas envoyé son fils en tant qu'adulte, mais qu'il l'a fait naître d'une femme. Jésus a dû passer par toutes les étapes de l'enfance. En fait, il a dû grandir pour devenir un homme fait, afin d'être totalement l'un de nous. Il a marché là où chacun de nous doit passer tous les jours. Il a habité parmi nous pour être notre exemple et pour que nous puissions marcher dans ses pas. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour se réjouir avec nous. Il est venu pour partager les soucis et les fardeaux qui nous oppressent, en prouvant que la parole a habité parmi nous. Dieu voulait nous dire, en fait, à vous comme à moi, « Je m'appelle Emmanuel, je veux vivre avec toi et non séparé de toi. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas sans secours. Je t'aime d'un amour éternel. Je serai auprès de toi. » Celui qui te guidera, te fortifiera et te secourra. La preuve, ce sera le signe d'un bébé né à Bethléem et d'un sauveur mort sur la croix et ressuscité des morts. Quelle merveille de savoir que le Christ peut habiter dès maintenant dans notre cœur. Et, mes amis, il suffit de le croire. Quand Dieu a déclaré qu'il venait pour vivre avec nous et en nous, cela signifiait qu'il était prêt à partager toutes nos expériences dans la vie. Quand nous pleurons, il pleure avec nous. Quand nous luttons, il combat à nos côtés. Quand nous avons le cœur déchiré par la déception, son cœur aussi est attristé. Quand la douleur nous frappe, son cœur aussi est touché. Quand nous nous réjouissons, il se réjouit avec nous. Il vit votre vie avec nous. Quelle merveille que notre Dieu Tout-Puissant s'identifie complètement à nous. Cela prouve à quel point Dieu est maintenant près de nous. Sa venue dans le monde s'est accompagnée d'une valeur nouvelle qu'il a introduite dans notre univers. Des valeurs morales nouvelles, un sens nouveau de la valeur de l'homme, de vous comme de moi. Jésus nous a dit et l'a prouvé que Dieu s'intéresse à nous, à nos problèmes, à nos difficultés et aussi à nos possibilités. Il sanctifie ceux qui connaissent en lui leur Seigneur et Sauveur, et un jour nous connaîtrons cette justice parfaite lorsque nous comparaîtrons en sa présence. Noël veut dire que Dieu est venu en son Fils Jésus-Christ pour racheter chacun de nous, chacun qui croit en lui. Il est venu habiter parmi nous pour prendre notre humanité et comprendre nos difficultés et pour nous servir de modèle d'amour et d'obéissance. Dieu a habité parmi nous pour mourir pour nous et ressusciter de sorte qu'il est vivant et qu'il nous donne aujourd'hui l'espérance du retour du Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a vécu est mort et ressuscité parce qu'il aime chacun de nous. En ce temps de Noël, permettez-moi de vous demander et de vous poser cette question. Jésus-Christ est-il vraiment une réalité pour vous? Habite-t-il vraiment dans votre cœur? A-t-il élu domicile dans votre vie? Sinon, mes amis, faites-le naître aujourd'hui dans votre cœur. Luis Mariano nous chantait « Des anges dans nos campagnes ». Voyez-vous, mes amis, Dieu est toujours à l'heure. La Bible dit dans l'Épître aux Galates, au chapitre 4, verset 4, « Quand le moment fixé fut arrivé, Dieu envoya son Fils. Il naquit d'une femme et fut soumis à la loi juive. Dieu n'a été ni en avance ni en retard. Il a interrompu l'histoire humaine avec l'avènement le plus important que le monde ait jamais connu. Dieu se manifesta jusqu'à une heure critique à cause de la décadence de la race humaine. le monde juif ancien s'est enlisé dans de vains efforts pour accomplir la loi. Cela amenait de l'étroitesse et du nationalisme. La loi avait pourtant bien souligné la vanité des efforts de l'homme pour avoir la paix et la moralité. Les juifs ne se rendirent pas compte que le prince de paix était né. C'est surtout en philosophie que les Grecs se distinguèrent, mais leur philosophie ne connaissait ni révélation ni espérance. Pour eux, le salut n'était qu'un rêve vaporeux. Il était insensé de vouloir connaître la paix et le pardon. Les Grecs ne se rendirent pas compte que le plus sage de tous les sages était dans leur pays. Les anciens Romains s'intéressaient aux lois, mais la loi opprimait et ne réussissait pas à apporter à tous la justice. Les Romains non plus ne se rendirent pas compte que le roi de justice était venu dans le monde où ils vivaient. Le monde n'avait jamais connu une telle angoisse. Il fallait que la moralité, la sagesse, la justice soient personnifiées pour que l'homme puisse découvrir la vérité absolue et le sens de son existence. Aussi Dieu envoya-t-il son Fils dans le monde pour qu'il fût la réponse au dilemme de l'homme. Il est venu dans son propre pays, mais les siens ne l'ont pas reçu, est-il écrit dans l'évangile de Jean au chapitre 1, verset 11. Si incroyable que cela puisse paraître, Jésus est venu et a été rejeté par le monde qui était le sien. Dans Jérusalem, la capitale, régnait la frivolité. Le roi Hérode, le grand, menait grande vie. La population était composée de gens spirituels, aimables. Les maisons étaient luxueuses et les réceptions somptueuses. Les femmes étaient vêtues à la dernière mode, ornées de magnifiques bijoux. Il n'est pas étonnant que les riches aient été troublés à la nouvelle de la naissance à Bethléem d'un sauveur qui est le Christ le Seigneur, nous dit Luc au chapitre 2, verset 11. Ils ne désiraient pas un sauveur qui les délivrât de leurs péchés, ils préféraient Hérode avec son luxe. Ils étaient trop occupés cette nuit-là à dormir ou à faire bombance et bien peu se rendirent compte de ce qui se passait. En cette période de Noël, la situation est la même. La majorité de l'humanité continuera sa route sans rien voir, comme l'aubergiste de Bethléem, lui qui aurait pu voir la naissance de Jésus se produire dans sa maison. Le don suprême du ciel fut rejeté dans une humble étable parce qu'il n'y avait pas de place pour lui à l'hôtellerie, nous dit Luc au chapitre 2 et son verset 7. Il en sera de même cette année, et des millions de gens seront absorbés par le vacarme de Noël et trop occupés pour penser au bébé de Bethléem. Que va signifier Noël pour un enfant ? Des jouets, des lumières étincelantes, pour des parents affairés, des achats, surtout avec les événements et les grèves que nous venons de connaître ? Ah ! Le souci sont le bon repas, des étrennes fun pour l'homme d'affaires, des marchés, des comptes. Beaucoup d'entre nous ne désirent pas vraiment voir Jésus intervenir dans leur vie, car il les gênerait. Hérode ne sauta pas de joie quand il entendit parler de lui par les mages, malgré les prophéties qu'il annonçait depuis longtemps. La nation d'Israël ne le désirait pas. Il est venu dans son propre pays, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais béni soit Dieu de ce que notre texte ne s'arrête pas là. Heureusement, mes amis, ce serait désespérant. Il est dit ensuite, cependant, quelques-uns l'ont reçu et ont cru en lui. Il leur a donné la possibilité de devenir enfants de Dieu. Oui, le monde a rejeté Jésus, mais Jésus a été reçu par les sages. Lorsque Jésus naquit à Bethléem, où Hérode était roi, des savants qui observaient les étoiles vinrent de l'Est. Ils arrivèrent à Bethléem, à Jérusalem, et ils demandèrent « Où est l'enfant qui vient de naître et qui doit être le roi des Juifs ? Nous avons vu son étoile apparaître à l'Est et nous sommes venus pour l'adorer. » nous dit Matthieu en son chapitre 2, versets 1 et 2. Quelle ironie, quelle tristesse, Jérusalem, la ville où l'on devait savoir par les prophètes et où et quand le Christ viendrait, Jérusalem ignorait l'événement ce sont des étrangers d'Orient qui vinrent l'annoncer. Ces hommes étaient des savants, des astrologues. Ils occupaient une haute situation. Ils étaient riches, oui, mais ils tournèrent le dos à la gaieté de Jérusalem et se dirigèrent vers l'obscurité et la pauvreté de Bethléem. Leurs esprits étaient remplis de la pensée de Dieu et de sa gloire, mais leur cœur se demandait si ce Dieu pouvait s'abaisser pour guérir les hommes. Ils avaient entendu parler de l'espérance d'Israël et ils avaient suivi l'étoile. Combien ces savants étaient différents des habitants de Jérusalem. Ils ne se laissèrent pas arrêter par la pauvreté de la demeure et par l'humilité de ses occupants. Ils reconnurent dans l'enfant l'objet de leur recherche. Ils se prosternèrent devant lui et lui offrirent des dons qui convenaient à un roi de justice et d'amour, c'est-à-dire de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Oui, ils étaient sages, parce qu'ils reconnaissaient que l'espoir de l'homme n'était pas dans un monarque appelé le Grand, avec toute sa pompe et son luxe, mais dans la vie toute neuve de l'enfant qui venait du ciel. Ils étaient sages parce qu'ils savaient que ce dont le monde a besoin par-dessus tout, ce n'est pas de reconnaissance, mais c'est de la vie que donne cet enfant roi. Que ce serait beau si tous les hommes de notre époque étaient aussi sages qu'eux, si, comme les sages d'Orient, les intellectuels d'Occident reconnaissaient la souveraineté de l'enfant roi. Aucun effort de l'intelligence ne peut atteindre la vérité capable de satisfaire les besoins les plus pressants de l'humanité. Il ne peut y avoir d'espoir, de pardon, de nouvelle naissance, de vie nouvelle, tant que nos cœurs ne l'auront pas accueilli, comme le firent ces savants d'autrefois. Depuis le jour où les bergers se sont précipités vers lui et où les mages l'ont découvert dans ses langes, l'enfant est devenu homme pendant 33 ans. Il a marché sur notre planète, il a guéri, il a aimé ceux qui ont le cœur brisé, il a souffert et il est mort sur la croix pour devenir notre sauveur. Il y a 19 siècles, des savants l'ont cherché. Maintenant, c'est lui qui nous cherche. Du haut du ciel, il nous invite. « Voici, nous dit-il, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui et il mangera avec moi », nous dit le livre de l'Apocalypse au chapitre 3, le verset 20. Le bébé de Bethléem, qui est maintenant le Christ glorieux, vous adresse à cette heure une invitation personnelle. Acceptez-la et donnez-lui le droit absolu de diriger votre vie dès aujourd'hui. C'est vrai, il est rejeté par le monde, mais reçu par les sages. N'allez-vous pas vous joindre à la communauté des croyants qui, dans le monde entier, ont découvert que Christ a été fait sagesse pour eux? Comme chrétiens, nous avons la responsabilité de célébrer Noël d'une manière telle que Christ n'en sera pas exclu. Donnons à Noël sa vraie signification. Quant à ceux d'entre vous, dans le cœur desquels Jésus-Christ n'est jamais né, répondit-lui maintenant.